Nous sommes toujours dans le chapitre 8 du Cantique des Cantiques, qui est un peu particulier dans sa lecture, parce qu'il est, rythmé différemment que les autres chapitres, tout simplement parce que le chapitre 8 est une succession de leçons à tirer de l'ensemble du Cantique des Cantiques, qui est en fait une parabole amoureuse plus qu'une histoire amoureuse, une rencontre amoureuse. On peut faire une lecture un peu plus complète. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Allez, je vous invite à relire à partir du verset 5 pour nous remettre un peu dans le contexte et nous apercevoir toute la succession de prises de parole des gens. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. Alors, ce soir, nous méditerons juste les versets 8, 9, 10. Mais comme ça nous permet de replacer ces versets dans le contexte. Donc, verset 5, c'est les habitants de Jérusalem qui prennent la parole et qui disent « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ?» La Sulamite prend la parole et dit « Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. » Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et là, les femmes du harem prennent la parole. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne la submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Et là, c'est ce qu'on va voir ce soir, ce sont les frères de la Sulamite qui prennent la parole. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Et c'est la Sulamite qui répond. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hémon. Il remit la vigne à ses gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 sicles d'argent. Ma vigne à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 sicles et 200 à ceux qui gardent les fruits. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. Amen. C'est un peu complexe, la fin du Cantique des Cantiques. Allez, revoyons donc ces quelques versets. Et donc, nous avons vu, là, dans notre lecture, ça nous a permis de revoir la prise de parole du peuple qui voyait la Sulamite appuyée sur son bien-aimé. Après, nous avons vu la prise de parole des filles du harem qui rendent témoignage de la force de l'amour véritable. Et puis là, ce soir, nous allons voir donc cet échange qu'il y a et qui est introduit par les frères de la Sulamite. Alors, ils ont une question. Nous avons une petite sœur, donc on comprend que la Sulamite, c'est là. Grande sœur, ok. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle, elle n'est pas encore formée. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Sous-entendu, le jour où des prétendants viendront la courtiser. Alors les frères, comme on l'a dit, dans ce dernier chapitre, tous les acteurs antérieurs reprennent la parole justement et ils prennent le temps de prendre la parole. Et là, les frères, on les avait déjà vus au chapitre 1er, rappelez-vous. C'est la Sulamite qui avait parlé d'eux, en leur expliquant deux choses, que c'était ses frères, les frères de la Sulamite, qui l'avaient placé comme responsable des plantations de la famille. Et puis, elle avait aussi expliqué que ses frères étaient très irrités. Le mot même dans le texte, c'est « échauffé ». C'est retraduit dans nos textes par irrité, échauffé, énervé. Bref, ils étaient en colère contre la Sulamite Parce que rappelez-vous, elle s'était fait happer, entraînée dans le cortège royal et elle s'était retrouvée dans le harem. Et ce n'est pas du tout le vœu de ses frères d'imaginer leur sœur être dans le harem royal. Alors ils étaient irrités contre elle. Alors évidemment, il faut se rappeler le contexte, c'est très important. Le contexte du Proche-Orient. Les frères, à l'époque, étaient responsables de leur sœur. Ils étaient responsables, ils devaient veiller sur leur sœur, et ils étaient aussi responsables de leur trouver un conjoint, de les marier. Donc ça, c'est une culture orientale qu'il ne faut absolument pas oublier. Et c'est pour ça qu'ils étaient un peu irrités de savoir que leur sœur, leur grande sœur, ait pu être là, emmenée, embarquée dans cette aventure. Cette expérience-là qu'ils ont vécue avec leur grande sœur les a rendus perplexes. Et justement, ils se disent, s'il s'est passé telle chose avec notre grande sœur, il faut qu'on commence à s'interroger sur notre petite sœur. Comment faire ? Actuellement, notre jeune sœur est encore impubère. Elle est encore trop jeune pour être convoitée, courtisée. Mais qu'est-ce qu'on fera ? Une fois que, comme la grande sœur, elle sera belle, bien formée, que l'amour viendra, que l'appel à la sexualité sera là, que des gens viendront la convoiter, la courtiser, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous ferons? Et je trouve, honnêtement, la démarche de ses frères noble. Noble. Ils auraient pu très bien se dire, avec ce qu'on a vécu avec la grande sœur, la petite là, on va serrer la vis. Ça aurait pu être là. La réponse, pardonnez-moi, un peu masculine, un peu audacieuse. Oh là là, si avec la grande sœur c'était comme ça, avec la petite sœur, on ne va pas discuter. Mais ce n'est pas du tout la mentalité de ces hommes. Ils disent au contraire, ils s'interrogent. Ils posent la question. Et quelque part, au travers de la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aussi une manière à eux de se dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas raté quelque chose avec la grande sœur? Ils vont pas s'imposer comme ayant une solution à brider la petite sœur ou à éviter un problème. Au contraire, par cette interrogation, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aussi une manière à eux aussi de se remettre en cause et se dire, mais toi la grande sœur, dis-nous, conseille-nous. Est-ce qu'on aurait raté quelque chose avec toi qui fait que tu t'es fait embarquer? Instruis-nous, montre-nous, explique-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la plus jeune sœur? Et c'est en ce sens que je dis que je trouve que la démarche des frères est noble. Elle n'est pas agressive. Elle n'est pas autoritaire. Elle n'est pas pleine de présomption. Elle ne croit pas résoudre les problèmes par la force. Mais au contraire, par le questionnement. Vous allez voir que cette réflexion nous sera utile. Plus tard. La responsabilité de ses frères est grande parce qu'ils doivent veiller sur leur sœur. Alors, écoutons la réponse de la Sulamite. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Je vous ai ramené une petite image, si tu peux la glisser s'il te plaît. Merci beaucoup, Estelle. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Si elle est un mur, si elle est une porte. Évidemment, chaque enfant est différent. Et ceux qui ont plus d'un enfant dans leur foyer voient bien que chaque enfant est différent. Et c'est véritablement la réalité de cette situation. La petite sœur est ou sera. Il n'y a encore rien d'établi, on dirait. Mais la Sulamite ne donne pas une solution calquée par rapport à elle. Si elle est un mur, on fera ça. Mais si elle est une porte, qu'est-ce que se représentent ces deux symboles? Un mur, cela évoque quelque chose de ferme, quelque chose de solide. Tandis que la porte, à l'image de celle-ci, qui n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer, de laisser les courants d'air rentrer et de rendre la salle un peu perturbante. Alors merci de bien vouloir la porte. Si elle est une porte, c'est l'image effectivement de quelque chose qui se laisse vraiment ouvert et comprenons un peu la situation, ouvert peut-être au monde, ouvert à la séduction du monde, ouvert à ses invitations, à ses sollicitations. Merci beaucoup, Lénaël, c'est très gentil. Et donc elle dit, voilà, si elle est un mur solide, costaud, si elle est appuyée sur des fondements stables, alors il y aura un traitement particulier. Mais si elle est une porte, si elle est ouverte au monde, si elle est ouverte à ses invitations, si elle est ouverte à ses appels, alors il y aura certainement une autre manière de travailler avec elle. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Les créneaux, c'est ce que vous voyez dans la partie haute des murailles, d'accord? On dirait comme une sorte de petite couronne, n'est-ce pas? Voilà, c'est placé. Les parties hautes là, ce sont des créneaux. Nous bâtirons sur elles des créneaux. Et quand je vous disais que on dirait comme des couronnes, bah en fait c'est ça, parce que certaines traductions ont traduit « Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle une couronne d'argent. » Oui, parce qu'en fait, il y a un jeu de mots. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Imaginez une construction en pierre comme ça, et puis tout en haut, ce seraient des gros pavés en argent. On comprend qu'il y a un message derrière cela. L'argent, comme le cèdre que nous verrons tout à l'heure, rappelons-nous que c'est Salomon qui écrit le Cantique des Cantiques. Et Salomon est connu pour avoir fait autre chose dans sa vie. Il a été l'instrument choisi par Dieu pour construire le temple de Jérusalem. Et outre l'or, mais l'argent et le cèdre sont deux éléments qui ont été employés en grande quantité à la construction du temple. L'argent, je vous lis juste une référence en Chroniques, chapitre 22, verset 14. C'est David, son papa, qui a préparé les matériaux. Il dit « J'ai préparé pour la maison de l'Éternel, écoutez, 100 000 talents d'or et 1 million de talents d'argent. » Vous voyez combien on a utilisé l'argent en abondance. Pourquoi? Parce que c'est un message spirituel. L'argent est le symbole de la rédemption, du salut et de la paix. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Elle sera revêtue comme une couronne d'argent. Mais on reviendra sur une explication plus linéaire de ce verset 9. Si elle est une porte, si elle est ouverte au monde, si elle est ouverte à ses séductions, si elle est ouverte à tous ses attraits, alors nous la fermerons avec une planche de cèdre. Le cèdre était aussi très répandu dans le temple. Tout l'intérieur du temple était recouvert, imaginez ici, était recouvert de bois de cèdre. Un peu comme ici, on a quelques endroits où il y a un peu de bois là. Et bien c'était tout le temple, tout l'intérieur du temple qui était recouvert de cèdre. Et sur ce bois de cèdre était collée une feuille d'or. Et ça reparlait de quoi? Ça parlait de l'annonce du Messie, parfaitement homme, par cette nature humaine, symbolisée par le bois, et parfaitement divine, par cet or qui était finement collé sur ce bois. Mais le cèdre, et c'est surtout la caractéristique de notre texte, le bois de cèdre était caractérisé par sa robustesse, sa force, même sa force majestueuse. Quand la Bible évoque le cèdre, c'est pour parler de sa grandeur et de sa majesté, et le bois de cèdre était particulièrement robuste. Ainsi, comment comprendre le verset 9? Eh bien, on pourrait retranscrire la pensée de ce verset en disant cela. Si la jeune fille est solide, si la jeune fille est solide dans sa chasteté, fermée comme un mur aux séductions, si elle est forte à défendre sa vertu, alors nous l'encouragerons, nous la gratifierons dans cette démarche de pureté, d'honneur, de paix et de salut. Mais si la jeune fille est ouverte comme une porte sur le monde et de ses attraits, alors il faudra limiter sa liberté. Nous devrons user de force, de résistance, pour l'empêcher de sortir comme elle l'entend. Et d'ailleurs, au verset 10, la Sulamite prend son rôle de grande sœur au sérieux. Parce qu'elle se montre, elle, comme un exemple. Et oui, les grands frères sont, et les grandes sœurs sont, doivent être souvent les exemples pour les plus petits. Et elle, elle a l'audace de dire « moi ». C'est ce qu'elle dit au verset 10. « Je suis un mur. Moi, j'ai tenu ferme. Moi, je ne me suis pas laissé déstabiliser. Je suis resté là imprenable. Je suis resté là attaché à ma rigueur, à ma fidélité au bien-aimé, malgré les assauts du roi. Je suis resté intègre dans ma chasteté, dans ma pureté. » Et c'est ce qui l'a rendu libre. Et la jeune fille, « Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. » Effectivement, la Sulamite a fait preuve de fermeté, de résistance, de fidélité. Et même si la poitrine de la Sulamite attirait les regards et la convoitise du roi, nous l'avons vu à plusieurs reprises, elle compare ses seins à des tours fortifiées, imprenables, capables de résister aux assauts du roi. Nous verrons la suite du verset 10. « J'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. » Nous verrons ça dans notre prochaine méditation. Alors, après avoir un peu compris le sens du texte, quelles leçons spirituelles nous pouvons retenir de ces passages? Le verset 8, « Nous avons une petite sœur. » Nous pouvons y voir là, prophétiquement, l'image de l'Église. Peut vous surprendre, mais rappelez-vous, en Éphésiens chapitre 5, verset 32, Paul se sert d'un verset de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 24, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Alors, bah oui, mais ça c'est par rapport à la relation homme-femme, à un couple. Oui, mais Paul va dire en Éphésiens chapitre 5, verset 32, que cela s'applique à la relation, au rapport entre Christ et l'Église. Tout parle de Christ et donc tout parle de l'Église dans la parole de Dieu. Et il n'est pas déraisonnable de voir au travers de cette petite sœur l'annonce prophétique de l'Église. L'Église est sans conteste la petite sœur d'Israël. Eh oui, Israël comme l'Église revendique la même paternité. Nous avons le même père. Quand deux personnes ont le même père, ils sont frères et sœurs. Israël est pour nous une grande sœur. C'est encore Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6, parlant d'Israël. Or ces choses sont arrivées au peuple d'Israël pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et oui, Israël est pour nous comme un grand frère, une grande sœur. Nous ne sommes pas forcément des pro-israéliens, ça c'est une autre conception. Mais Israël est notre grande sœur et l'Église est effectivement, prophétiquement, parce qu'à l'époque, cette petite sœur annonce effectivement cette Église. Alors, il y a un appel qui est lancé à l'Église sous forme de l'interrogation. Quelle Église serons-nous? Quelle Église serons-nous? Serons-nous un mur solide, stable, affermi, appuyé sur des fondations stables? Et nous savons que c'est l'invitation que Jésus nous donne, de fonder notre vie sur la parole de Dieu, sur Christ lui-même. D'ailleurs, il compare nos propres vies à des constructions sur la fondation. Ou serons-nous des portes ouvertes à tout vent de doctrine, invitant la mondanité, invitant la corruption, invitant la mentalité du monde? Quelle Église serons-nous? Et quand on regarde l'histoire de l'Église, avec un grand H et un grand E, nous apercevons que bien souvent l'Église est passée comme ça, d'ouverture à des fermetures, et qu'il y avait de temps en temps dans certaines parties de l'histoire des difficultés de trouver un juste équilibre. Quelle Église voulons-nous être? Jésus nous invite à avoir de solides fondations, à être solides, fermes, à ne pas forcément nous barricader, mais que notre ouverture soit toujours contrôlée par le bois de la croix, par la sanctification, par la piété, par la consécration. Il y a toujours, et il y aura toujours, une tentation de prendre une porte où le chemin sera plus large, plus spacieux, plus confortable à vue humaine. Mais la Bible nous rappelle que étroite le chemin est, petite est la porte, étroit est resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Soyons prudents, soyons plus des portes, soyons plus des murs que des portes. Et la question des grands frères est intéressante. Au verset 8, que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Que ferons-nous par rapport à notre petite sœur ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça m'a fait penser à une parole d'Abel en Genèse chapitre 4, verset 9. Il vient de tuer son frère Caïn. Et puis Dieu lui pose une question : il est où ton frère ? La réponse d'Abel : suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ? Les frères se posent la question : qu'est-ce qu'on doit faire avec notre petite sœur ? Les bien-aimés, nous sommes responsables de nos bien-aimés. Nous devons prendre soin des uns et des autres. Oui, la question d'Abel, il cherchait à fuir sa responsabilité. Mais suis-je le gardien de mon frère ? Oui, nous devons être des gardiens mutuels. Pas des surveillants, on se comprend, pas des inquisiteurs, mais nous devons apprendre à veiller les uns sur les autres. Je n'ai retenu que 3 versets. Mais c'est Jésus qui commence en Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. On pourrait mettre le nouveau entre guillemets. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On comprend que on ne va pas développer la notion d'amour, mais s'aimer, c'est prendre soin l'un de l'autre. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Que nous apprenions encore et encore à veiller les uns sur les autres. Que le fort soutienne le plus faible. Que le riche soutienne le plus pauvre. Que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari. Et ainsi de suite, que celui qui a reçu puisse donner de ses dons, de ses capacités à celui qui est dans le besoin. Si elle est un mur, si elle est une porte. Alors là, on va voir quelques points qui est plutôt lié à la notion de l'éducation. À chaque enfant, son éducation. Chers parents, faisons attention de ne pas faire de comparaison. Nous aurons peut-être parmi nos enfants un mur et un autre enfant qui serait plutôt porte. Mais faisons attention de ne pas rentrer dans des comparaisons. Faisons attention de ne pas élever l'un, mépriser l'autre, de relever le talent de l'un par rapport à la médiocrité de l'autre. Faisons attention de ne pas faire de favoritisme, de ne pas faire de préférence entre les enfants. On risque de semer du mépris, de la frustration, de l'injustice, de la discorde, de la dévalorisation. Un enfant qui se sent toujours comparé à quelqu'un ne se sent pas aimé pour ce qu'il est lui-même. Et un enfant qui ne se sent pas aimé pour ce qu'il est lui-même ne fera pas un adulte responsable, motivé, équilibré. On a dans la Bible même des exemples comme ça, on voit dans le couple Isaac qui préférait Ésaü et Rebecca qui préférait Jacob. Eh bien oui, voilà des frères qui n'ont pas réussi à grandir ensemble. L'exemple de Joseph qui était préféré par rapport à tous les autres, ah oui, ça l'a même mené presque à la mort. Faisons attention d'être des parents impartiaux. Oui, même si l'un est plutôt mur et l'autre plutôt porte. Porte. Que nous soyons capables de les aimer chacun pour leur qualité. Et appliquer une éducation différente pour chacun. Parce qu'une méthode que l'on va appliquer avec l'un ne va pas du tout correspondre avec l'autre. C'est normal. Chaque enfant étant différent, il ne faut pas s'attendre à ce que notre méthode, une méthode qui fonctionne avec l'un, puisse fonctionner de la même manière avec l'autre. Non. Si les terrains sont différents, il faut employer des outils différents. Que ferons-nous lorsqu'elle sera grande? Ça, c'est une bonne perspective dans l'éducation, vous savez. Que ferons-nous lorsqu'elle sera plus grande, plus mature? Que ferons-nous lorsque demain, elle sera presque une adulte? Mais ça doit être la perspective des parents. L'éducation que nous apportons à nos enfants ne doit pas viser le aujourd'hui. Notre but n'est pas que nos enfants deviennent des pions, des robots, des soumis à notre autorité et qu'ils obéissent aux doigts et aux logs de tout ce qu'on leur demande là de faire maintenant. Ça n'a pas de but. L'éducation, c'est rendre nos enfants des adultes responsables demain. Nous devons leur donner les moyens, non pas de faire tout ce qu'on leur demande de faire comme des petits robots ou des petits soldats soumis. Ça n'a pas de sens. Mais notre éducation doit avoir toujours la projection de demain. Est-ce que ma fille sera une femme? Est-ce que demain, mon petit-fils sera un homme capable de faire des choix, être responsable? Il faut leur apprendre effectivement à être soumis, obéissant, c'est plutôt le terme. On doit leur apprendre l'obéissance, mais on doit aussi leur apprendre à faire des bons choix, à se responsabiliser, à comprendre que chacun des choix qu'ils font amène à des conséquences et qu'on doit les amener à apprendre à faire les bons choix qui mèneront à de bonnes conséquences. Voilà une perspective dans l'éducation. Voyons ce cas qui sera notre dernier point. Si elle est une porte. Alors bien sûr, si elle est un mur, nous la couronnerons là aussi. Apprenons à encourager nos enfants. Ne croyons pas que ce qu'ils font de bien, c'est quelque chose de normal. Tant mieux s'ils le font bien. Mais si nous ne les encourageons jamais, si nous ne les félicitons pas dans les choses qu'ils font bien, alors ils considéreront que leurs efforts ne vaut pas grand-chose. Et le jour où ils seront à faire un choix, peut-être qu'ils seront entraînés à faire un mauvais choix, parce que peut-être que là, ils seront encouragés par d'autres personnes. Apprenons à encourager nos enfants dans les choses bonnes qu'ils font. Apprenons à les encourager, à les stimuler, à les congratuler, oui, dans les choses bonnes, louables, afin qu'ils puissent grandir avec de l'authenticité, de l'honneur dans leur cœur, à savoir que ce qu'ils font, c'est bien, et que c'est agréé de leurs parents et agréé devant Dieu. Mais si nos enfants, notre fils, notre fille, à l'adolescence, ressemble plutôt à une porte, si elle a plutôt tendance à se laisser attirer par ses ouvertures vers le monde, vers la mondanité, allez, disons-le même, à être ouvert au premier ou à la première venue, que ferons-nous? Il y a plusieurs études qui révèlent un lien entre la carence affective parentale et les fréquentations amoureuses précoces. Je reprends la phrase. Il y a des études qui montrent qu'il y a un lien entre le manque d'amour qu'un enfant peut recevoir de ses parents et les relations amoureuses qu'il va entamer jeune dans sa vie. Si je prends un exemple, en gros, si la petite fille, je prends l'exemple d'une petite fille, mais c'est pareil pour le petit gars, si une petite fille ne s'entend pas dire de son papa qu'elle est belle, qu'elle est spéciale à ses yeux, que c'est la plus belle des petites filles que cet homme, que son papa aime, alors ce besoin qu'elle a, elle le recherchera dehors, inévitablement, parce que chaque enfant a besoin de savoir qu'il est précieux, spécial, aimé, chéri de la part de son père et de sa mère. Si ce besoin n'est pas comblé dans le cœur d'un petit bout de chou, c'est un besoin qu'il cherchera ailleurs. Et c'est pourquoi on s'aperçoit que des enfants qui ont grandi avec cette carence affective, eh ben, ils vont prendre la première porte qui lui fera croire qu'elle est spéciale, qu'il est spécial. Et là, on ne sait pas qui sera le premier venu qui lui dira ça. Et combien est-ce qu'on a vu de larmes, des dégâts, des gâchis et même des drames à cause de certaines aventures amoureuses qui se sont mal terminées. N'hésitons pas, en tant que parents, à oser fermer la porte à certaines connaissances. Si nous savons que nos enfants ou que notre enfant aurait cette attirance à vouloir prendre cette porte de la séduction du monde et des mauvaises fréquentations, c'est notre devoir de parents de savoir mettre une porte ferme de bois de cèdre. Nous avons le devoir de conseiller nos enfants, nous avons le devoir de les enseigner, mais nous avons aussi le devoir de les protéger. Et quand nous sommes conscients que certaines sorties, conscients ou même de temps en temps divinement inspirées par le Saint-Esprit, ou ce pressentiment qu'on peut avoir en tant que parent, qui n'est pas forcément définissable, mais on sent que non, là, ça va trop loin, ne sors pas. Alors oui, nous avons le devoir de protéger nos enfants, d'expliquer à nos enfants, non, ce soir, la porte, elle est fermée. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Nous avons le devoir aussi de dire non à nos enfants pour leur sécurité. En conclusion, rappelons que l'éducation n'est pas que répressif et punitif, évidemment, même s'il y a besoin de fermeté et de repères solides. Mais l'éducation, c'est surtout préventif par notre affection et incitatif par l'encouragement et la responsabilité. Amen.